Bien, bonjour à tout le monde, après cette soirée festive hier soir. On va évoquer aujourd'hui un sujet qui a sans doute déjà été évoqué de nombreuses fois, indirectement ou directement dans d'autres tables rondes, mais là, plus frontalement, donc la question de la présence des ordinateurs, notamment des ordinateurs géants, mais pas forcément non plus, on verra qu'il y en a d'autres, dans le cinéma de science-fiction, au sens large du terme. Pour ce faire, on a un panel de quatre personnes qui ont des intérêts variés et des compétences extrêmement diversifiées et qui s'intéressent, j'ai pu le constater en tout cas, de près ou de plus loin au cinéma et au cinéma de science-fiction. Alors je commence par Ariel Kirou, que vous avez vu ici en tant que modérateur déjà, je crois. Qui est journaliste, écrivain, animateur radio, spécialisé dans les nouvelles technologies et les musiques électroniques, et qu'il se définit lui-même, je trouve que ça lui va bien, un agitateur multicasquette, on en a besoin. Il est directeur associé de la Société Moderne Multimédia et rédacteur en chef du site Culture Mobile. Il enseigne la musique à l'Université Versailles-Saint-Quentin, l'histoire critique des cultures actuelles à l'Institut supérieur des arts. Il est membre du comité de rédaction de Multitude, donc une revue, et c'est aussi un passionné de littérature, de science-fiction, mais pas seulement, de philosophie, de cinéma, comme en témoignent ses ouvrages, donc L'Absédique, en 2009, Google God, Big Brother n'existe pas, il est partout, en 2010, Techno-Rebelle, un siècle de musique électronique chez De Noël en 2002 et Parano-Fiction, traité de savoir-vivre pour une époque de SF chez Climat. Et c'est un film qui est fondé assez largement sur les œuvres de Philip K. Dick, de James Ballard et de quelques autres, dont Don DeLillo, et qui parle aussi de beaucoup de choses, y compris de son expérience personnelle. Et voilà, je trouve que c'est un ouvrage passionnant. À côté de lui, K.W. Jeter, qui est donc l'un des invités cette année du festival, qui est l'auteur de nombreux romans. Alors je vais commencer par la science-fiction, mais il a aussi écrit autre chose, des romans de science-fiction dont Dr. Adder, qui est un roman qualifié de cyberpunk, de Glass Hammer et Farewell Horizontal, qui est proche de deux autres auteurs qui sont également venus, en tout cas au moins l'un, Tim Powers et James Blaylock, et avec eux, et en partie lui, il est considéré comme l'inventeur ou l'un des inventeurs du terme steampunk, considéré parfois comme un sous-genre de l'ASF ou comme une esthétique, mais qui est aussi manifestement un mélange des genres. Et son plus récent ouvrage s'appelle Fiendish Schemes, Plan diabolique, et c'est la suite d'Infernal Devices, des machines infernales, publiée en 1987, suite qui était longtemps attendue. Il est également l'auteur de romans d'horreur et de thrillers, dont Darkseeker, Soul Eater, hein, le mangeur d'âmes, etc. Gardien de nuit, Nightman, est-ce une référence à La soif du mal de Orson Welles. Il a écrit une série de romans dans les univers de Star Trek et Star Wars et donné 3 suites à Blade Runner. Et il a également un projet récent qui s'appelle The Kim O Thrillers, série de romans que vous pouvez trouver sur Amazon. Raphaël Granier de Cassagnac, qui est écrivain et physicien des particules, donc c'est l'un des deux scientifiques présents sur le plateau au CERN. Il cherche à caractériser le plasma de quarks et de gluons, là ça devient complexe, un état dans lequel était l'univers pendant les premières microsecondes du Big Bang. Il est directeur de collection de la collection Ouroborès chez Mnemos. Il publie des livres qui recréent un imaginaire des grands écrivains, en particulier du 19e ou du début du 20e, Lovecraft ou encore Jules Verne. Donc, Un an dans les airs pour Jules Verne et Kadat. Et ce sont des romans qui sont magnifiquement, des textes, pardon, qui sont magnifiquement illustrés par Nicolas Fructus, entre autres, qui est présent, je crois, ou qui n'est pas loin en tout cas. Et je tiens à lui rendre hommage ici. Et Raphaël est également l'un des auteurs, c'est-à-dire qu'il écrit des textes aussi pour ses ouvrages. Il a publié 2 romans. Outre divers textes brefs, donc 2 romans, Eternity Incorporated, Éternité Incorporée, chez Mnemos en 2011, et en 2014, donc tout récemment, en août 2014 en fait, Thinking Eternity, un thriller, à la fois un mélange des genres, là encore, un thriller, enquête journalistique et projection ou anticipation visionnaire. Et enfin, Éric Dumonteil, donc, qui est physicien, lui, physicien pur et dur, si j'ose dire, au CEA Saclay, maître de conférence à l'INSTN, professeur à l'école centrale, spécialiste de la physique statistique et des simulations par la méthode de Monte Carlo. Il nous expliquera ce que c'est, on n'est plus au casino là. Et il est titulaire de la chaire Computing Sciences de la maison de la simulation qui associe en fait différents laboratoires de recherche et universités, dont le CEA, le CNRS. Il est passionné par l'histoire du calcul et la physique de l'aléatoire, dont l'aléatoire c'est quelque chose qui a pas mal stimulé les imaginaires des écrivains de science-fiction aussi. Et il a publié sur la compréhension à l'aide d'outils théoriques et numériques des phénomènes de transport stochastique. On trouve ça aussi dans les romans de Philippe Cadic, par exemple, qui permettent de modéliser les réactions dans les cœurs des réacteurs nucléaires. Voilà. Et sa thèse est disponible sur le net pour ceux qui voudraient s'y plonger, en PDF. Voilà, donc merci de votre présence. Donc, puisqu'il est question, on a pris comme point d'articulation, en quelque sorte, 2001 Odyssée de l'espace, grand film de Kubrick, effectivement, avec des images mémorables d'un ordinateur central. Mais je voudrais, comme première question, demander à chacun d'entre vous d'évoquer les films de science-fiction qui utilisent des ordinateurs pré-2001. Il y en a un certain nombre, et donc j'aimerais que vous m'en parliez, donc, selon vos compétences ou voilà, vos intérêts personnels. Alors, qui veut commencer ?
J'étais pas né avant 2001, moi, donc c'est pas évident. Non, mais tu m'as donné la perche juste avant. Là, il y a le film il y a AlphaVille, dans lequel il y a effectivement une intelligence artificielle qui s'appelle Alpha 60, et qui je pense, aborde. C'est l'héritier de 1984, en fait, au niveau de la littérature. Donc, c'est l'image d'une intelligence artificielle dictatoriale qui gère une société humaine. Donc ça, c'est un des pans qu'on trouve dans le cinéma. On le retrouvera plus tard, l'intelligence artificielle qui est dictatoriale, en fait, qui agit comme dictateur. Et c'est pas du tout ce qu'on trouve, je pense, dans 2001, où là on a une intelligence artificielle qui fait face à une poignée d'humains et qui est également malveillante, mais pas de la même façon.
Tout à fait. Bon, c'est un bon exemple. Je crois que déjà, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est la présence d'une voix incarné donc par un personnage qui a une voix très particulière parce qu'il porte un appareil, il a des problèmes de difficultés d'élocution, et donc du coup ça donne une caractéristique très insolite et inquiétante à cette voix masculine.
Alors moi j'ai profité de la programmation cinéma très riche de ce festival pour rattraper un peu mes lacunes en science-fiction, et en particulier il y a un film qui m'a inspiré, c'était Demon Seed, donc un film de 1977 dans lequel on voit à l'œuvre.
Désolé, hors sujet pour l'instant, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais je préfère qu'on garde ça pour plus tard si ça vous ennuie pas.
Bon, alors, oui, non, là j'ai plus que le film de Fritz Lang avec Metropolis, mais ça va être serré là.
Oui, mais c'est quand même une sorte de manière imaginaire, une sorte d'antécédent, effectivement, de la machine.
Exactement. Mais la différence, effectivement, en ce qui concerne Metropolis, c'est que la machine et la métaphore de la machine au sens large, qui s'incarne après dans le robot, bien évidemment, mais on n'est pas dans l'intelligence artificielle qui va concrétiser cette figure métaphorique de la machine sur tous ses points de vue, c'est-à-dire technologique, symbolique et tout le reste. Hein, donc c'est vrai que c'est une prémisse, mais sans le visage de l'IA. Voilà,
tout à fait. Oui. Mr. Jeter?
Can I jump in here?
Yes.
I think, you know, we've got this notion of the sort of universal, ubiquitous and pretty invisible computer that Hal represented in 2001. And which became sort of a idea that kept repeating in subsequent films, just because, well, not just because, but for one of the reasons it did, was because it made storytelling so easy in some sense for science fiction authors and science fiction filmmakers. In a science fiction story, you're always faced with the problem of sort of downloading into the audience or the reader's mind a lot of information that needs to be presented in as elegant a fashion as possible and not a clunky sort of way. And when you have the invisible, ubiquitous computer that you can just talk to, it makes life so much easier for storytellers. You can just say, this is how my character gets this vitally important information. He just merely says, give me the information, and we hear the voice telling him. You see this all the time in, say, Star Trek, where the captain is able to just say, computer, give me such and such. Boom, boom, boom. He doesn't have to sit down at a console. He doesn't have to take a interface device out of his pocket. He doesn't have to log in. He doesn't have to authenticate. It just happens. And in that sense, that had an effect for storytellers and filmmakers, made life a lot easier for us. We could just sort of make sort of a reference to that, that information was this sort of universal, ubiquitous cloud that could just be drawn upon whenever necessary. And as I say, that makes life so much easier.
Thank you. Merci. Excellente liaison, oui. Tout le monde comprend l'anglais, j'imagine, ou vous avez des casques? D'accord, très bien, parfait. Donc, je voudrais, avant de peut-être de revenir à 2001, parce que je crois que c'est important, simplement signaler quelques aspects qu'on va développer ensuite et que vous développerez chacun selon votre point de vue. On peut l'aborder de très nombreuses manières, avec d'inévitables croisements. On peut adopter une perspective historique, évidemment, dans l'histoire du cinéma, une évolution, d'ailleurs avec une évolution technologique aussi, compte tenu des connaissances scientifiques. On peut l'aborder en termes de vraisemblables scientifiques, donc ce sera effectivement le propos d'Éric Dumonteil, par exemple. On pourra aborder aussi un certain nombre d'aspects thématiques, c'est-à-dire qui sont dans l'histoire, par exemple la question du savoir, la question du pouvoir, la question de la relation à l'humain, l'humanisation éventuelle. Et aussi, je pense que ça pose des enjeux narratifs. Hein, comment rendre intéressant pour un spectateur de cinéma quelque chose qui est une machine, finalement, qui n'est pas spécialement... justement, comment faire une machine à fiction d'un ordinateur, en fait. Donc, des enjeux narratifs. Et aussi, des enjeux esthétiques. C'est-à-dire, comment représenter, comment mettre en scène. Et donc, ça me fait une transition pour parler, justement, de 2001. Parce que 2001, je crois que c'est un des premiers... Kubrick, je veux dire, à mettre en scène de manière extrêmement intelligente et extrêmement sensible en même temps, et tout en respectant un certain aspect technologique, donc l'ordinateur central. Voilà. Donc je voudrais que tous, à votre manière, vous me parliez de 2001. Voilà. Qu'est-ce qui vous a...
Bon, je commence ? Bon, ok, bon, je commence alors. Je crois que 2001, en fait, le film et Hal, dans le film, donc l'ordinateur central du vaisseau spatial, a une caractéristique particulière, c'est que Il est double. Il est à la fois incarné, et pour la première fois, en fait, on voit des personnages humains qui dialoguent directement avec lui. Donc ça, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire on passe d'un état où l'ordinateur est une sorte, comme le disait très bien K.W. Jeter, une sorte de présence, mais presque magique, immédiate, qui permet d'éviter d'entrer dans les détails du comment et du pourquoi, de qu'est-ce qu'il est, d'où il vient, je ne sais quoi. On passe de cet état, on va dire, omniprésent, mais dans une sorte de nuage, à une incarnation. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Hein, c'est-à-dire que soudainement, est-ce un être ? Est-ce que ce n'est pas un être ? Est-ce finalement une figure divine, hein, symbolique de du côté démiurgique de l'humanité, qui a créé une sorte d'esclave qui devient Dieu ? Soudainement, cette incarnation pose une multitude de questions. Et le paradoxe, c'est que c'est une incarnation qu'on peut débrancher. Donc il a cette double identité, quelque part, d'une sorte de tout, d'une sorte de magnificence, d'une puissance extraordinaire et en même temps d'une proximité qu'on n'avait jamais vue, notamment pour un ordinateur central, via cette incarnation. Et c'est selon moi la raison pour laquelle l'apparition de Hall est essentielle dans l'histoire du cinéma, dans notre rapport à l'intelligence artificielle. Et c'est ce pourquoi, à mon sens aussi, il perdure bien plus que n'importe quelle autre figure d'IA de n'importe quel film.
Merci. Sacheter.
I find it often interesting to watch people in real life, outside of movies, interfacing with information devices that I'm somewhat slow to pick up on. I watch my wife and her friends and teenagers and very small children interfacing with global, ubiquitous, almost invisible information devices in a way that, because of my age, I'm not growing. I didn't grow up naturally with those things. But then again, I see people, you know, my age, my wife and her friends, who are able to just dive into this ocean of ubiquitous, universal information in a way that I don't seem to be able to. You know, maybe because I'm just not as sociable as they are. And in that sense, you know, it's interesting that we've just sort of started to learn that some of the devices that were supposed to get us really into the world of invisible, ubiquitous information, that computer, constant computer presence, in a very easy fashion, they haven't really taken off the way that people anticipated. And that's maybe because they just weren't as wonderful as these things that we saw in the movies. We're finding out that the Google Glass invention, those glasses that you wear on your head and supposed to give you sort of a constant computer link, they're sort of failing in the marketplace. And people really aren't getting out of them and really aren't experiencing them and not desiring them as this big corporation was anticipating they would. And when you think about it, it's kind of obvious. They're just not as cool as what we see in the movies. The movies are what, and the TV shows are what we think of as wonderful, constant, ubiquitous information surrounding us. And we don't have to have a funny pair of glasses, and we don't necessarily have to have things that we pull out of our pocket. And so in that sense, this tremendous technological stride of Google Glass just didn't vault over the gap into that world that we see in the movies and television. And that's really what people want. They want what they see in the movies, that where they can just sort of speak to the cloud and the information comes to them without an interface. And so in that sense, still the movies and the television shows are pulling us forward, but we haven't been able to yet to get into that world that we desire.
Thank you. On peut revenir à 2001, peut-être deux minutes.
Oui, oui, je vais y revenir. Je suis content que vous ayez mentionné les... Parce que je suis venu avec mon intelligence artificielle.
Bien sûr, oui, oui.
Non, je voudrais revenir sur ce que tu disais. Je crois que dans 2001, effectivement, il y a la voix. Mais ça, on l'avait déjà, par exemple, dans Alphaville. Le héros d'Alphaville parle directement à l'ordinateur. Je pense que la vraie différence dans 2001 et ce qui rend le contact avec l'intelligence artificielle très fort et qui fait qu'on s'en souvient aujourd'hui, c'est le côté intime, en fait. Ils sont que deux dans le vaisseau, plus trois qui sont en cryogénie. Et le héros, il a une relation extrêmement intime avec l'ordinateur. Il rentre même dedans, d'une façon très symbolique, pour essayer de le débrancher. Et je pense que c'est ça la vraie rupture, en fait. C'est un traitement extrêmement intime du rapport d'une intelligence humaine avec une intelligence artificielle, et pas de plein d'intelligences artificielles avec plein d'humains ou d'une intelligence artificielle avec plein d'humains. Et je pense que c'est ça, pour moi, la rupture avec 2001, c'est ça, c'est de montrer l'intelligence artificielle d'une façon extrêmement personnelle. On est à la place du spationaute dans le... Donc c'est ça, je pense, qui fait que 2001 est... Ça et plein d'autres choses, mais c'est ça, je pense, sur la question de l'intelligence artificielle qui le rend extrêmement singulier.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste dire que cette question de l'intime, on va la retrouver tout au long de notre parcours.
Après,
Et que la voix est quand même différente, justement. Elle est beaucoup plus chaleureuse, en quelque sorte, à certains égards, que la voix de Godard, qui est désincarnée, mécanique, etc., volontairement.
Et puis à l'œil.
Voilà. et l'œil, bien sûr, oui.
Moi, il y a une scène qui m'avait beaucoup choqué. J'avais vu le film quand j'étais jeune. C'était la scène finale dans laquelle on voit l'être humain qui opère le vaisseau et qui progressivement sort les racks mémoire de la machine. Et en fait, on voit la machine diminuer et puis un espèce de questionnement de cette machine qui se voit diminuer elle-même, etc. Et c'était une scène qui était très troublante. Et plus généralement, dans le film, ce que j'ai aimé, c'était cette espèce d'esthétique, en fait, du déploiement d'intelligence, mais dans le temps, c'est-à-dire la manière dont Hall 9000 commence à sortir de ses prérogatives de manière apparente, en fait, parce qu'il va commencer à jouer contre les gens du vaisseau, mais pour le bien, je crois, de l'humanité. Donc on voit un espèce de questionnement, on voit en fait une intelligence, une conscience se déployer, et puis ensuite la manière dont en fait l'ordinateur est diminué tout à la fin. Et ça m'a fait penser un livre de science-fiction que j'avais adoré, je crois qu'il a été mis en scène un peu plus tard, de Daniel Keyes en 1966, qui était Des fleurs pour Algernon, dans lequel on voit Charlie, donc quelqu'un d'un peu simple d'esprit, en fait, et sa souris qui s'appelle Algernon, qui tous les deux, grâce à la médecine moderne, en fait, se voient augmenter, ils deviennent de plus en plus intelligents. Et du point de vue narratif, c'est vraiment génial parce que Charlie raconte un peu son histoire, décrit ce que ça fait que de devenir de plus en plus intelligent et de plus en plus conscient. Et ensuite, il se voit diminuer un peu comme Hall 9000, en fait, tout à la fin du film. Et en fait, je trouve qu'il y a une esthétique très particulière associée à l'augmentation vraiment des capacités cognitives et aussi un espèce de spleen qui est assez inhérent au fait qu'on puisse se sentir diminué dans certaines situations, en fait, qui sont très, très humaines.
Ce qui est assez amusant dans la manière dont tu le racontes, c'est que tu le racontes comme si Hal était un être humain. Et ça, c'est pas un hasard. C'est parce que Daisy Daisy, en fait, en anglais, ouais. C'est Daisy Daisy, la chanson en fait qu'ils chantent en version française, c'est Au clair de la lune, en fait, hein, qu'ils ont mis. Ouais. Et le Daisy Daisy, Max Matthews, qui est un des pionniers de la musique électronique, en fait, il avait utilisé en fait Daisy Daisy pour la première voix en vocodeur, l'un des tout premiers synthétiseurs en fait dans une sorte de grand laboratoire aux États-Unis. Et c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'en fait, il retombe en enfance, en fait, il redescend, et Daisy Daisy ou Au clair de la lune, c'est l'essence même de non seulement l'humain, mais l'enfant, en fait. Donc c'est comme s'il avait grandi et soudainement il diminuait, donc et t'en parles comme d'un être humain. Et ça c'est bien la preuve que ça fonctionne.
Merci. Je rajouterais juste un détail, que l'ordinateur donc est capable de sentiments, puisqu'il y a un moment, j'ai peur, hein, littéralement. I'm afraid. Plusieurs fois, et ça revient plusieurs fois de manière répétitive. Et effectivement, l'œil, voilà. Après, on pourrait évoquer d'autres questions, mais c'est vrai qu'il y a aussi la mise en scène de Kubrick qui est extraordinaire. Le jeu, par exemple, sur le cadrage, les plongées, les contre-plongées, l'interaction constante du corps du cosmonaute et du corps, littéralement. Presque incarné, spatialisé en tout cas de Hal, voilà.
Mais c'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'il n'a pas de robot. Il est visuellement, il n'est pas du tout humain, mais comme on l'a tous montré là, je crois, il finit par être un personnage extrêmement humain dans le.
Ouais, tout à fait.
Je me demande même s'il parle pas plus que les autres dans le.
Et aussi en fait, je rajoute un mot, mais plus sur le point de vue des ordinateurs actuels, des générations d'ordinateurs actuels. On pourrait penser effectivement que des machines vont se développer et qu'elles n'auront rien en commun avec les humains, mais ce qui est intéressant dans les architectures actuelles, en particulier en matière d'intelligence artificielle, c'est qu'on utilise beaucoup des réseaux de neurones, c'est-à-dire que la brique de base sur laquelle on essaye de construire l'intelligence artificielle à l'époque actuelle, c'est vraiment une brique de base qui est très propre à celle de l'être humain. Donc en ce sens, on peut se dire qu'effectivement, l'intelligence qui peut-être se déploiera à terme des machines sera une intelligence très humaine.
Alors justement, je voudrais rebondir sur ça, puis après d'autres pourront rebondir aussi, mais la question se pose dans ces films, dans un certain nombre de cas, du vraisemblable technologique, voire scientifique. Moi j'ai été frappé dans le projet Forbin, par exemple, qui est aussi présenté ici, que c'est avec le concours évidemment de l'industrie de l'informatique, et qu'il y a des ordinateurs géants réels, et qu'on voit toutes les manipulations réelles. Et en plus de ça, il y a une sorte de mimétisme entre, par exemple, au niveau du générique du film, entre la pratique informatique, c'est-à-dire que le film lui-même est traité de manière informatique, le générique du film est traité de manière informatique. Alors justement, est-ce que ce que raconte ce film vous paraît crédible?
Alors,
et jusqu'à quel point? Voilà.
Bon, crédible, ça reste vraiment de l'anticipation, et puis clairement, quand on calcule avec, quand on utilise des supercalculateurs et même un peu d'intelligence artificielle, on se retrouve très vite limité aujourd'hui. En revanche, ce qui semble vraiment intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il me semble qu'il y a toutes les briques de base pour qu'effectivement quelque chose finisse par apparaître. Il y a deux choses à cet égard qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que par exemple, il y a un ordinateur qui s'appelle Watson, qui a été développé par IBM. Et en fait, ce n'est pas tellement un ordinateur, c'est plus des algorithmes qui tournent sur un ordinateur et qui, en 2012, a gagné le jeu Jeopardy aux États-Unis. Et cet ordinateur-là, ils sont en train de l'entraîner pour qu'il passe les examens d'entrée à l'université de Tokyo dans certaines disciplines, en mathématiques, en physique. Et le but, c'est qu'ils fassent ça avant 2020. Et donc, ils ont déjà des résultats très probants. Donc, déjà, ça questionne. Et typiquement, cet ordinateur-là, il tourne avec 100 millions de neurones. Donc, il reste un facteur, l'être humain a 100 milliards de neurones en tête. Il reste un facteur 1000 pour avoir des ordres de grandeur, on est un peu limité en ce moment. Il y a cette espèce de chose qu'ils appellent le mur dans l'industrie du silicium, dans la Silicon Valley aux États-Unis, à savoir qu'on commence à arriver, les transistors commencent à arriver à leur limite en taille, ils font quelques centaines d'atomes, on n'arrive pas à descendre en dessous. Mais ce facteur 1000, je pense qu'on pourra très vite le dépasser. Et là, vraiment, tous les films d'anticipation semblent presque réalistes, mais c'est juste mon opinion. C'est pas...
Quelqu'un veut rebondir?
Can I jump in? I think it showed how prescient and predictive of the future Kubrick was in 2001, that he did have that sequence where Hal is starting to show emotions, he's starting to show fear, but what is particularly striking about that and the leap that Kubrick was making was that Hal was expressing fear not to himself, but as an appeal to Dave. He was saying, Dave, I'm afraid, please have an emotional response to my fear. Don't think of me as a machine, think of me as a person, because I'm afraid. And that has been something where we've seen not just the machines developing what seems like emotion, but we've started to see stories and even in real life the response of human beings having emotion back toward the computers. And I think one of the most recent examples was in the American television show The Big Bang Theory. I don't know, do we have The Big Bang Theory here in France?
Yes.
Yeah, it's about a group of very high-level computer nerds. And the running gag of one of the show is that one of them, the character named Raj, has a great difficulty in getting a girlfriend. And at some point, he gets an iPhone, smartphone or something. It has the Siri feature on it, which speaks like a human being, a very solicitous female voice. And all of a sudden, all of his energy and sentiment that would go towards a real-life, physical, flesh-and-blood girlfriend, he's starting to have this emotional response to the little voice of the computer coming off of his smartphone. It has successfully appealed to that which in a human being responds to other creatures' emotions and the display of the emotions. Dave, in 2001, obviously didn't respond the way Hal wanted him to. He didn't go, oh, yes, you're afraid. Okay, I'll stop. In this few episodes of the Big Bang Theory television show, it really became an issue that the character Raj, the simulation of emotion from the computing device, was able to so successfully evoke an emotion back from him, and he was treating it as if it were a real human being. As human beings, we have this built into us. We are going to respond to other people's display of emotions. Human beings that don't do that are considered sociopaths, and there's something wrong with them. So if computers start getting, or not if computers start getting good at displaying emotions, when they get really good at displaying emotions, we're going to have to face the challenge of deciding how are we going to respond to those. Are we going to cut ourselves off from that human part of us that responds to other things acting in emotional fashion toward us?
Thank you. Quelqu'un veut réagir?
Pour moi, la vraie question, c'est ce que tu disais, c'est est-ce qu'à un moment, une machine va commencer à avoir des émotions? C'est un peu ce que vous disiez. Et moi, dans mon roman, j'appelle ça la conscience artificielle. Plein de gens appellent ça comme ça, je pense. Donc là, je suis sûr qu'en termes d'intelligence, on va pouvoir arriver à faire des choses, et on y arrive déjà. Les ordinateurs nous battent aux échecs définitivement, c'est terminé. Pour des tâches précises sur l'intelligence, ils pourront rentrer à l'université de Tokyo, j'en ai pas beaucoup de doutes. Mais la vraie question pour rentrer dans tous les scénarios de science-fiction, et en particulier celui de 2001, c'est ça. C'est est-ce qu'un jour, ces machines auront des émotions ? Et pas n'importe quel type d'émotion, c'est-à-dire est-ce qu'elles auront les émotions qu'on veut qu'elles aient, c'est un peu ce que vous proposiez, mais à un moment, est-ce qu'elles vont avoir des émotions qui nous dépassent, est-ce qu'elles vont devenir indépendantes sur le plan émotionnel, et c'est là que tous les scénarios de science-fiction rentrent en jeu. Et moi, dans mon roman, j'ai proposé que non, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Dans mon roman, les intelligences artificielles nous mentent sur le contenu émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, Hal n'a pas peur. Il dit qu'il a peur parce qu'il veut susciter une réaction en nous, parce qu'il nous manipule en quelque sorte. Il est calculateur. Je pense que le terme est très exact en l'occurrence. Donc il fait semblant d'avoir des émotions, mais il n'a pas vraiment d'émotions à lui. Il produit des émotions qui sont conformes à son programme initial en quelque sorte. Donc moi j'ai posé ce postulat-là, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Je suis pas sûr qu'un jour avec les je sais plus combien tu as dit de neurones, naturellement les machines développeront pas des émotions propres.
Sauf que tu dis qu'il a pas d'émotions et qu'il répond à son programme, mais dès lors qu'il va tenter de tuer les astronautes, ça veut bien dire qu'il ne répond plus à son programme.
Tout à fait.
Donc s'il ne répond plus à son programme, c'est peut-être qu'il a des émotions.
Non, il en a. En fait je disais Hal, c'est mon Hal à moi n'a pas d'émotions, mais c'est le Hal du film, il en a complètement.
C'est le Hal fictionnel, oui, d'accord.
Mais sur l'histoire des émotions, déjà, il y a un film qui m'avait beaucoup touché de cette année, alors je ne veux pas le spoiler. Je ne sais pas si les gens ont vu le film Hair de Spike Jones. Sur les émotions et sur l'ordinateur, je ne peux pas m'empêcher de penser que bon, ce qui s'est passé pour l'être humain, il y a eu un développement du néocortex, un peu comme la girafe a développé son cou pour manger les feuilles en haut des arbres, le rhinocéros sa corne. Nous, on a développé notre cortex pour un peu générer des représentations de notre environnement, pour nous frayer un chemin en fait dans la survie. Et je me dis que l'ordinateur, enfin finalement, c'est ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de générer des représentations. On l'a vu hier même dans des formes primitives avec le robot Roméo ou Romero d'Aldébaran. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à partir du moment où on génère des représentations de son monde, on finit par soi-même se mettre en scène dans ces représentations, comprendre sa finitude, etc., et avoir certaines émotions, quoi.
Non, puisque... Oui, d'autres films. Donc, ouais, je pense qu'il y a bon, parmi les enjeux importants de ce genre de film, je parle du cinéma, il y a les enjeux de savoir et de pouvoir. Donc, on voit ça très très bien dans de nombreux films, dont ceux qui ont été montrés ici. Mais il y a d'autres types d'enjeux qui sont, et là je crois qu'on va un peu au-delà de 2001, c'est que l'ordinateur lui-même veut une sorte d'incarnation humaine, mais au-delà de sa fabrication en quelque sorte. Oui. Et c'est le cas de films comme justement Opération Proteus. Voilà, donc si vous connaissez ce film-là, ou d'autres d'ailleurs du même type, où justement l'ordinateur cherche littéralement à s'incarner, mais cette fois presque corporellement, et à avoir des relations de type physique avec, physique autant que c'est possible, avec les humains. Et c'est en tout cas un film qui est peut-être pas forcément génial au point de vue mise en scène, mais qui est très intéressant, je pense, sur cette question. Donc ça s'appelle Demon Seed, littéralement la semence du diable. Hein, le titre original est quand même intéressant aussi, parce qu'il renvoie une mythologie du diable, alors que le titre français c'est Opération Proteus, c'est beaucoup plus scientifique à certains égards, mais le terme est intéressant parce que Proteus c'est justement un ordinateur qui change de forme. Voilà, donc c'est cet aspect-là, ce côté polymorphe. Peut-être qu'Eric pourrait commenter d'autres après lui.
Alors la première chose qui m'a choqué quand j'ai vu Demon Seed, c'est qu'il y ait fait allusion, alors j'ai noté, hein, parce que j'aurais... C'est-à-dire la technologie de l'ordinateur, c'est un quasi neural matrix, donc une matrice quasi neuronale. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les générations actuelles d'ordinateurs reposent sur des architectures qui sont dites de von Neumann. Elles ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elles possèdent certaines spécificités. Et si vous voulez, le développement des ordinateurs, il a été vraiment adossé à ce type de machines-là qui maintenant nous limite un peu, parce que ce sont des machines qui sont séquentielles, qu'on a du mal à paralléliser, c'est-à-dire la machine a du mal à penser à plusieurs choses à la fois, et chez l'être humain, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui m'a fait penser, tout de suite quand j'ai entendu quasi neural matrix, j'ai pensé à la puce True North. Donc IBM est en train de produire une puce qui pour le coup dépasse les architectures actuelles des ordinateurs qui sont basées sur du von Neumann, et c'est une puce qui est neuromorphe, c'est-à-dire dans laquelle on va vraiment implanter au niveau du microprocesseur, c'est-à-dire en silicium, un équivalent des neurones humains. Et donc ça, typiquement, ce sont des architectures qui sont asynchrones, qui sont massivement parallélisables. Et c'est très intéressant parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui était dans Demon Seed et qui vraiment prend forme maintenant dans l'industrie actuelle.
Merci. Quelqu'un veut réagir par rapport
sur ces deux films? Oui, il y avait effectivement le cerveau d'acier, hein, qui date de 1970, le Forbidden Project, qui a été présenté, et Demon Seed, dont on vient de parler, Génération Proteus. Moi, ma vision en fait, des choses, je n'ai pas le sentiment que ces deux films, aussi intéressants soient-ils, soit de l'ordre de la rupture par rapport
non,
à Hal.
Pas
fait,
de la rupture,
hein.
Non.
On est quand même dans une logique de gros ordinateurs qui, effectivement, vont se rebeller. Alors, le point commun de tout ça, quelque part, c'est on a le sentiment qu'effectivement, à chaque fois, le gros ordinateur ne rêve que d'une chose, c'est d'être humain. Bon, On peut se poser la question si c'est vraiment son rêve ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est mis en scène. L'intérêt de Demon's Seed, c'est qu'en plus, non seulement il rêve d'être humain, mais de prendre forme humaine et de faire l'amour avec la femme du patron. Bon, c'est un fantasme assez commun, faire l'amour avec la femme du patron, surtout si elle est jolie. Il se trouve qu'elle est jolie. Bon, tant
c'est
mieux.
C'est Julie Christie. Hein.
Voilà, oui, bon, il se trouve qu'elle est... Donc c'est tant mieux pour... en tout cas, pour... Bon, mais elle n'apprécie pas beaucoup, apparemment. Et il naît une sorte de bébé. Alors, est-ce le bébé de la machine ou le bébé du diable ? À mon sens, on est encore entre... On est presque descendu d'un cran par rapport à Hal en termes d'imaginaire. On est revenu un peu à Metropolis. On y a mis un côté un peu gore, un peu fantastique. Parce que ce bébé, il n'est pas très beau. Hein. En tout cas, au premier abord. Je me demande s'il y a une suite ou pas. Mais voilà, quoi. On est dans le divertissement. Alors, Colossus, c'est différent parce que là, on est dans le pouvoir.
Ouais, hein.
Et effectivement, je ne sais pas si vous avez vu le film ou pas, mais on a un ordinateur qui est censé gérer absolument tout... De la défense des États-Unis et immédiatement, plutôt que de défendre son cher pays pour lequel il a été conçu, il devient pote avec son camarade, puisque c'est le cas de le dire, d'Union soviétique, et il s'avère qu'il préfère la compagnie de son camarade d'Union soviétique à ses parents, qui eux pourtant étaient de bons Américains patriotes. Bon, voilà. Bon, alors, à mon sens, c'est plutôt c'est divertissant. Mais je crois que par rapport à Hal, et contrairement à Her ou d'autres films qui sont venus après, on n'est pas dans quelque chose qui progresse, on est dans quelque chose qui disgresse avec plus ou moins d'humour et d'amour.
Merci. Eric, réagis.
Enfin non, j'ai une petite réaction. Il n'est pas laid, ce bébé.
Non,
en fait, c'est vrai qu'il apparaît tout d'abord
il n'est pas laid, non.
Avec une forme. Mais en fait, je crois que c'est la fille. Il a recréé, ouais.
Il a recréé la fille.
Voilà, la fille qui manquait au couple, en fait.
Autrement, on a l'impression au début que c'est une sorte d'hybride, justement, parce qu'il est recouvert d'écailles, de métal, littéralement, mais qui ressemble un peu aussi à une sorte de grec, hein, vêtu d'une armure. Et ensuite, quand on enlève ces écailles métalliques, il a une peau humaine, effectivement, et voilà, il est réincarné.
Et alors, aussi, une autre chose qui m'avait choqué, c'est qu'il y a une espèce de folie, de la complétude dans la réalisation de ce film, dans le sens où, en fait, il ne viole pas l'ordinateur. Au début, c'est pas très clair, mais l'héroïne, mais vraiment, il lui implante à un moment des pensées dans le cerveau. Pour qu'elle finalement, pour que cela vienne d'elle-même. Et même si c'est pas le cas tout à la fin, elle est plutôt partie prenante. Et ça me renvoie à la conférence d'hier sur une neurobiologiste, Armer Ranciac, là, qui expliquait que maintenant à l'INSERM, les gens pouvaient vraiment implanter des souvenirs dans le cerveau des gens, ce qui m'a choqué.
Alors c'est très intéressant, parce que cette question de l'implantation des souvenirs, on la trouve vraiment partout dans la série Le Prisonnier, dans un certain nombre de films de science-fiction Dark City d'Alex Proyas et bien d'autres. Donc voilà. Ça, c'est un aspect qui me paraît important. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de rupture de paradigme, effectivement, mais il y a quand même des aspects intéressants dans cette volonté d'anthropomorphisation. Pardon. Et donc, pour rebondir un peu là-dessus, peut-être donner la parole aussi à M. Jeter, ce qui se pose aussi, c'est bon, quelque chose qui est très à la mode actuellement, mais pas toujours bien compris, ce qu'on appelle parfois la théorie des genres, en tout cas la question du genre masculin et féminin, qui se pose de manière précise dans tous ces films, c'est-à-dire notamment par exemple par le nom, par la nomination. Bon, et on en reparlera. Donc, est-ce que vous parlez de cette question du masculin et du féminin, évidemment des rapports de pouvoir aussi entre le masculin et le féminin.
That's pretty interesting. I was just thinking about that as the other members of the panel were talking about these issues, that at the end of the day, all of our thinking and, imagining about interfacing both with other human beings and with computers and robots to some degree becoming like human beings, at the end, we start to think about sex and gender and the sort of romantic and sexual relationships we have with other human beings. And so, like I was talking about with the character in the Big Bang Theory, what drives the story and drives the situation is the fact that he wants to have a romantic and even sexual relationship with something, and if he can't have it with a real-life flesh and blood woman, then this little computer voice is going to be in some ways a satisfactory substitute for that. It raises the issue that if we are talking about designing these machines and computers, what do we leave in and what do we leave out? do we say, okay, this computer, this robot, this artificial intelligence is only going to have what are the emotions and characteristics that we want it to have and not have the emotions and characteristics that we don't want it to have. And in this sense, I'm thinking of another film, which was more of a fantasy film than a science fiction film. It was a Japanese movie that came out about 4 or 5 years ago called Air Doll. And I can't remember the director's name, but it starred the very fine Korean actress, Doona Bae. And in the movie, she portrays an inflatable doll, the sort that men, lonely men, buy as a sexual substitute. Only she starts to develop a personality. She's left alone, you know, in the apartment while the fellow is off at work, and she starts to investigate her environment, just as if she's developing a human intelligence, human emotions, and she starts to teach herself, just as we see some computers and artificial intelligence doing, she starts to teach herself how to be human. And she expects that this is going to make the man love her more, that she is becoming a real human. And instead, he is horrified and disgusted. He did not have this inflatable doll because he couldn't, you know, deal with a real woman. It's because he didn't want to deal with those parts of another human being that he found inconvenient and too much of a demand upon him. So when he sees his inflatable doll becoming a human being, he's horrified and disgusted and wants to get rid of her. Are we going to, if we're going to design these artificial intelligences and computers and robots to have things that seem like emotions to them, are they going to be kind of crippled in a way? Are we going to design them in such a way that they're not really full human beings, and we're not going to have the experience with them that we have with each other, where we have to deal with you and you have to deal with me in times when what I'm doing is not what you want me to be doing, and I have to deal with you, and I have to deal with my wife, and I have to deal with my friends at times when her emotions and their emotions are not necessarily the ones that I would have deliberately said, yes, this is what I want to be happening. So in that sense, you know, it raises an issue. As we develop this technology to give artificial intelligences what seem to us to be emotions and a vividness, a livingness, are they going to be real and full creatures the way we are, with bad emotions, inconvenient emotions, troublesome emotions? Or are they just going to be sort of simpletons? You know, just always friendly, just always happy. I mean, nobody ever flips on their smartphone and gets the little Siri voice and she says, piss off, I'm busy. You know, they're always pretty nice to us. But real human beings aren't that way. So in that sense, this may be a design problem that if we're ever going to have a real, full emotional relationship with something other than a human being, something that we create ourselves, are we going to design it as a real complex creature that is going to demand something from us? Or is it just going to be just a sort of air doll without real emotions?
Thank you. Oui, vas-y.
Non, je pense que c'est effectivement la question centrale. Et elle était peut-être un petit peu absente de 2001, justement, cette question du genre et de la relation émotionnelle de l'homme vers la machine. Dans 2001, la machine réclame une relation émotionnelle avec l'astronaute, mais dans l'autre sens, c'est très peu vrai. Et effectivement,
oui,
dans les films qui sortent aujourd'hui, et effectivement, Air Doll, c'est, je pense, un bon exemple. Le réalisateur, c'est Hirokazu Koreeda. J'ai demandé à mon intelligence artificielle. Yes.
Et, excellent réalisateur.
Et dans Her, qui est le film qui est à mon avis un excellent film, qui peut-être adresse cette question en profondeur, vraiment sur la relation. Quelle est la nature d'une relation émotionnelle qu'on va avoir avec des machines? Ça commence sans doute à arriver. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir des relations émotionnelles avec nos téléphones portables. Et ça va se développer, je pense. Plus ils nous répondront, plus on va développer un truc un peu bizarre. Et juste pour conclure, moi, j'ai demandé toujours à mon intelligence artificielle quels étaient les meilleurs films de science-fiction, les meilleurs films avec des intelligences artificielles. La réponse est là. Et le deuxième qui sort, c'est 2001. Et le premier, c'est Her. Il y a peut-être un effet de mode, puisque c'est cette année. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez voter, d'ailleurs. Moi, j'ai voté pour changer un peu. Et c'est les deux seuls films de tous ceux qu'on a évoqués qu'on trouve dans cette liste sur Internet.
Je voudrais juste dire qu'on n'a pas parlé de Terminator, où il y a évidemment une intelligence artificielle très, très importante, mais finalement qui pose moins de problèmes, enfin, d'autres types de... Là, qui est moins intéressante peut-être à certains égards que les films qu'on a évoqués. Et je voulais simplement dire qu'on est passé effectivement d'enjeux politiques, effectivement de savoir, de pouvoir, à des enjeux de l'intimité, de la sexualité, de la relation amoureuse, etc. Avec effectivement un risque de banalisation, justement, comme le disait Carl Jetter très, très justement. C'est vrai qu'il y a un changement là qui est en train de voler. Et ce film, je trouve que j'ai vu le débat à la télévision, et le film était très controversé, enfin je veux dire justement. Donc j'aimerais savoir ce que, bon, peut-être pour finir avant de donner la parole au public, puisque je vois que l'heure tourne, est-ce que vous pourriez tous parler de ce film-là ou de Her, puisque manifestement c'est quand même actuellement l'un des films qui est le plus intéressant, le plus stimulant, et qui met en évidence justement le pouvoir de la voix, donc le pouvoir du son, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, en dehors de la voix, le pouvoir du son aussi, hein, c'est très important, le bruitage, etc. Et ici, la voix magnifique de Scarlett Johansson, sans incarnation corporelle, justement. Voilà, donc c'est le tour de force peut-être du film. Donc je vous donne la parole à tous pour évoquer ce film.
On va essayer d'être bref. Moi, ce qui m'a plutôt touché, en fait, dans Her, c'est que, contrairement, en fait, à ce qu'il y a avec Old, c'est qu'on assiste à tout le processus, quelque part, c'est que cette intelligence artificielle, elle est créée par l'individu. En tout cas, il a le sentiment que c'est lui qui la crée. Et ça, on ne voit jamais cette création, en fait. Hein. C'est un non-dit, quelque part. Comment l'IA est créée ? Est-ce que c'est une boîte, une entreprise qui va faire son business derrière ? Il se trouve que c'est justement ça, en fait. Hein. Et c'est assumé. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est assez original. C'est que non seulement elle est créée, en fait, donc c'est une sorte de logiciel. C'est un logiciel, hein, the fact.
C'est un logiciel.
Voilà, c'est un logiciel. Mais en plus, elle évolue au fur et à mesure de son rapport au personnage. Donc, elle est créée et elle évolue en rapport à au personnage donc, créé par Spike Jonze, qui est donc l'amoureux de l'intelligence artificielle. Et donc, ça évolue. Ils évoluent ensemble. Elle évolue avec lui, quelque part, d'une certaine manière. Et après, elle se libère, comme un enfant. Et on découvre à ce moment-là qu'elle avait peut-être 1000 autres relations en même temps avec des tas d'autres. Ce qui, évidemment, fait beaucoup de peine au personnage du film. Donc ce que je trouve passionnant, en fait, dans ce film-là, par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir auparavant, c'est que non seulement on retrouve cette relation intime qu'on avait dans Hall, mais cette relation intime n'a plus aucune dimension de pouvoir par rapport à la société, ce qui est bien ou pas bien, mais elle a une dimension profondément intime et individuelle sur la transformation de l'individu via les nouvelles technologies et via des relations avec des abstractions. Et le truc qui m'a le plus étonné dans le film, en tout cas qui je trouvais intriguant, c'est que dès lors que l'IA essaye de s'incarner en une humaine, pour le coup, pour avoir une vraie relation charnelle, en fait, par intermédiaire au personnage, ça ne marche pas. Ouais. En fait, le héros ne veut pas. Il dit mais non, ça détruit mon rêve, en fait. Donc, ce qui veut bien dire que, quand même, que ce soit réel ou pas, moi, pour moi, le rêve, la métaphore fait partie du réel, mais c'est une autre dimension du réel. Et on voit bien que dès lors qu'on essaye de le concrétiser par le physique, là, un tas de nouveaux problèmes surgissent, y compris lorsqu'on est dans ce registre de l'intime.
Merci. Brièvement, parce qu'il faut qu'on donne un peu la parole au public, mais chacun d'entre vous peut s'exprimer sur ce film.
Non, je pense que sur le côté émotionnel, tu as tout dit. Effectivement, ce que je trouve génial dans le film, c'est qu'à la fin, la question de la grande intelligence artificielle qui nous dépasse est également abordée. Donc, on part d'un truc très, très intime, extrêmement intime, et on finit sur des doutes sur l'avenir à grande échelle de ces bestioles-là. Quoi.
Moi, quand j'ai vu le film, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, le début de la préhistoire, le paléolithique, c'était il y a 3 millions d'années. On s'est développé sur des échelles de temps très longues. Notre cerveau, il est à la fois électrique et chimique, c'est-à-dire que même s'il marche très très bien, il marche lentement. Là, quand on regarde le développement des ordinateurs, ça s'est fait, ça a commencé quoi, dans les années 40, pas les machines électromécaniques, mais vraiment les machines digitales. Donc en gros, les ordinateurs, ils ont 60 ans d'âge et ils sont que électriques, c'est-à-dire que aussi limités soient-ils dans leur fonctionnement, ils fonctionnent très très vite. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va se passer quelque chose et que quand ça se passera, ce n'est pas juste qu'on va avoir une interaction peut-être intelligente ou consciente avec un ordinateur, mais c'est qu'effectivement, tout de suite, on va être dépassé dans le sens où les choses vont très vite du côté des ordinateurs. Et ce dépassement-là, il est vraiment mis en scène dans R, où on voit effectivement alors que ce soit sur un plan sentimental ou d'intelligence, quand elle rencontre un autre OS qui est un maître zen, etc. Donc il y a à la fois de la philosophie, des sentiments, de l'intelligence, mais tout de suite il est dépassé.
Merci beaucoup. Donc il reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à sujets qui ont été abordés, peut-être des films dont vous avez... Voilà, une question là-bas. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ?
Donc, le micro qui a une intelligence artificielle se déplace tout seul, ce qui est quand même remarquable.
Allô ? Oui. Donc, une petite question. J'étais étonné que vous n'ayez pas parlé du film AI, qui contient à la fois du Kubrick, du dépassement de l'humain, de l'émotion dans les deux sens.
Mais ce n'est pas un ordinateur. Enfin, c'est pas la question de l'ordinateur qui est posée dans AI, c'est autre chose. Mais bon, c'est pour ça, mais je suis d'accord.
L'intelligence artificielle.
Oui, mais le sujet, c'était les ordinateurs. Enfin,
c'est vrai qu'on s'est centré sur les
intelligences. On s'est centré sur les ordinateurs, hein, pas sur le...
Dans la liste des top films, là, il y a énormément de films avec des robots, en fait, et c'est pas tout à fait la question.
Non, le sujet, c'est pas les robots, les androïdes, etc. C'était autre chose, mais je suis tout à fait d'accord, c'est un film passionnant. Et évidemment, il y a de l'informatique derrière tout ça, on est bien d'accord.
Et on y retrouve effectivement des éléments qu'on retrouvera dans Her, hein, c'est-à-dire cette logique relationnelle quelque part, comme quoi c'est l'émotion et l'empathie qui comptent, bien plus que l'intelligence, au risque justement d'un retournement plutôt négatif.
Voilà, donc c'est un petit peu, c'est connexe, hein, mais c'est pas centralement la question de l'ordinateur. Oui ? Monsieur, au deuxième rang ?
Oui, bonjour. Dans les films marquants, je trouve, vis-à-vis des descendants de Hal, il y en a un auquel je pensais, qui est Moon aussi, de Duncan Jones. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Moi, je ne l'ai pas vu. Je peux vous dire qu'il est numéro 10 dans la liste.
Non, moi, je ne l'ai pas vu non plus, celui-là. Mais pouvez-vous en dire deux mots, peut-être,
Alors, le problème, c'est un petit peu difficile de trop en parler sans spoiler, mais ça s'amuse avec l'image des gens de Hal, tout en prenant en contre-pied, en fait. Donc, vous avez la même image que Hal, mais les réactions de l'intelligence artificielle ne vont pas être les mêmes.
C'est dans ce film-là qu'il y a des smileys sur l'ordinateur, c'est ça ?
C'est bien ça.
Ah, ouais, c'est
ouais,
ça,
donc Oui, c'est vrai que ce qui était super intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, il jouait un peu avec les codes de 2001, mais il y avait presque quelque chose d'humoristique. D'ailleurs, le film est plutôt drôle à plusieurs moments, quoi. Et ça, c'est vrai que ça met un pied un peu dans cette question de l'humour et de l'intelligence artificielle ou des ordinateurs. De la même manière qu'on peut dire que le questionnement, c'est une forme de conscience, c'est vrai que l'humour ou ces situations-là, je trouve, désenclenchent un peu tous ces sentiments d'appréhension qu'on peut avoir par rapport aux ordinateurs quand on met vraiment en scène juste une intelligence ou une conscience qui va nous écraser, quoi.
Oui, ça c'est une dualité intéressante aussi. Effectivement, les ordinateurs, disons, de l'époque de la guerre froide, que ceux qu'on a vus, etc., sont des ordinateurs hyper sérieux, hyper froids, sans la moindre nuance d'humour, etc. Et donc, c'est ce qui manque, justement, et l'humour est une dimension, évidemment, émotionnelle et humaine, oui, tout à fait. D'autres questions ? Oui, il y a deux mains qui se lèvent.
Bonjour. Vous avez peut-être pensé que je déborde un peu également du sujet.
C'est pas grave. Hein.
Moi, j'ai pensé à Existence de David Cronenberg et à Tron. Dans ces films-là, finalement, on oublie l'interface de l'ordinateur, mais l'homme, il est confronté à ce programme informatique, mais il entre dans ses entrailles, en fait, et il est plus ou moins le jouet de l'ordinateur. Et je trouvais ça intéressant également parce qu'il y a aussi un rapport d'intime, parce que le programme ou l'ordinateur peut s'adapter à la personnalité de celui qui entre à l'intérieur pour gêner, le faire du mal.
Alors, après, les deux films sont de nature différente. C'est-à-dire, dans Existence, en fait, ce qui serait une intelligence artificielle centrale n'apparaît pas, n'existe pas. On est dans le vrai et le faux, on entre dans un univers virtuel, réel, on ne sait plus où on en est. Et le pod est une sorte d'être mi-mécanique, mi-vivant quelque part. Ouais. Donc on est sur. Là, on est peut-être relativement loin. En revanche, dans Tron, il y a le maître contrôle principal.
Voilà, c'est ça, ouais.
Hein, et là, effectivement, on y retrouve. Lui, c'est le maître d'un univers. Alors, la seule différence, c'est qu'il reste dans le monde du jeu vidéo, il invite son créateur, donc l'humain se retrouve bizarrement prisonnier de ce monde de jeux vidéo. Et donc là, la différence par rapport aux exemples qu'on a cités, c'est que ce n'est pas l'IA qui est dans le réel, c'est l'humain qui rentre dans le monde de l'IA, l'IA voulant effectivement prétendre qu'il n'y a pas de créateur. Et donc c'est une métaphore de notre monde et évidemment de l'aspect profondément religieux qui nous habite tous, puisque comme chacun sait, tous ces films ne sont que les reflets de nos propres fantasmes, évidemment, y compris nos visions de l'IA.
Merci. En tout cas, oui, l'exemple de Tron est tout à fait juste. On avait prévu d'en parler, voilà, mais c'est un cas limite. Et bon, Cronenberg, c'est une autre question et ça mériterait une autre table ronde. Voilà, merci en tout cas de votre...
Mais les deux films parlent de la question du jeu et du rapport qu'on a quand on joue sur des plateformes, alors numériques ou biologiques, selon les deux cas, et le rapport qu'on a avec ce type d'intelligence artificielle, qui n'est pas forcément très poussé. Mais...
Il y avait une autre question, je crois.
Oui, bonjour. Moi, je voulais parler par rapport à HAL 9000. Moi, ce que je comprends, et ses héritiers, c'est des intelligences artificielles, mais qui sont dans un lieu où ils sont omniprésents. C'est ça la différence avec les robots qui ont une interaction juste à l'endroit où ils se trouvent. C'est cette omniprésence qui est anxiogène pour les gens, et pas forcément anxiogène, parce qu'il y en a, il y a certains ordinateurs qui sont... on va dire bienveillant, enfin, qui ne cherche pas à détruire l'humain. Mais pour revenir sur Tron, ça ne se passe pas que dans le jeu, parce que vers la fin du film, auprès du PDG de l'entreprise, il fait du chantage directement dans l'univers, dans notre monde réel, il le dépasse. Moi, ce que je suis un petit peu étonné sur cette conférence, c'est qu'il y a vraiment un grand écart entre HAL 9000 et ensuite on a parlé de R, de Spike Lee.
Non, et Spike Jones.
Spike Jones, excusez-moi, désolé, retenez pas ça. Et en fait, il y a quoi ? Il y a près de 50 ans entre les deux films et on se demande comment ça a évolué ce rapport entre cette intelligence omniprésente. Comme elle peut être dans justement dans Tron, dans son univers, où j'ai d'autres films en tête, mais c'est pas la peine de les donner. Mais il y a quand même une évolution. Je trouve même, je voulais exclure Matrix, mais finalement c'est le cas extrême où HAL se répand partout et prend la domination. Il y a plusieurs évolutions, il y a plusieurs façons de le traiter. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'évolutions entre HAL 9000, qui est à la fin des années 60, et Tron, qui est en 1982. Quoi. Il y a quand même quelques années qui passent, et ils sont quand même très très similaires, je trouve, dans leur façon de fonctionner.
Je crois que c'est vrai, hein, sur la question de l'intelligence artificielle incarnée par un ordinateur, il n'y a pas eu énormément d'évolutions vous l'avez dit, entre les deux films qu'on a principalement cités, 2001 et Heure, qui est peut-être un petit peu nouveau sur cette question-là. Par contre, dans tous les films que vous nous proposez comme nouvelle alternative, sur le traitement et la dimension spatiale de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses. Mettre les intelligences artificielles dans Matrix, on a parlé de... Il y a War Games aussi, des choses comme ça, où l'intelligence artificielle a un champ d'extension qui est plus large. Mais je crois que, et on l'a dit, la question de l'intelligence artificielle nous touche énormément, c'est quand on la traite du point de vue de l'intime, plus, ce qui n'est pas le cas dans Matrix, dans Tron, dans ce genre de film. Donc je pense que c'est un peu l'angle d'attaque qu'on a eu.
Et aussi, il y a quelque chose qui me fait penser, oui, sur l'évolution, vraiment.
Chacun une phrase. Mais...
C'est que on peut trouver... c'est vrai que HAL 9000, c'est un gros système expert, même du point de vue de l'informatique, c'est-à-dire une intelligence artificielle. On a du mal à imaginer comment une intelligence artificielle peut se développer si elle n'est pas en interaction avec d'autres de son espèce. Et j'ai trouvé que par la suite, et alors là, c'est là que c'est moche, parce que je n'ai pas d'idée en tête, mais je suis sûr qu'il y a peut-être des gens dans le public qui en ont ou quoi, mais il y a une autre classe d'intelligence en informatique qui sont les systèmes multi-agents, c'est-à-dire des petits systèmes qu'on dote d'une volonté propre, c'est-à-dire on va leur dire, voilà, toi, ton but, c'est d'aller te nourrir à la prise électrique, et d'une capacité d'évolution, donc elles vont pouvoir interagir entre elles, mettre en place des stratégies. Et la mise en scène de ces idées-là sur les systèmes multi-agents, elle est un peu apparue dans le cinéma. Souvent, c'est avec des insectes super évolués, etc. Parce que les insectes, on se dit, c'est une intelligence collective. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses aussi intéressantes de ce côté-là, en termes d'évolution et de transfiguration d'Hall 9000. Quoi.
Merci beaucoup à tous. On va arrêter parce que c'est l'heure. Merci d'avoir été là, d'avoir posé vos questions.